Kulam, Bezat Hashem, nous commençons ensemble. Bezat Hashem, j'espère que le groupe se multipliera, s'agrandira. Un cycle pour l'année à venir. Avec moi, vous avez pour l'instant un cours par semaine, le mardi à midi. Et Bezat Hashem, on va voir si les choses avancent. Peut-être qu'il y aura un autre cours. Nous sommes dans le mois de Elul, et le mois de Elul est considéré comme étant le mois de la reconnaissance de l'appartenance de l'homme au Créateur. C'est-à-dire que nous prenons conscience que nous sommes créés. Les initiales du mot Elul, les sages ont fait un jeu de mots et ont pris les initiales Ani le Dodi, Vedodi li. Traduction, j'appartiens à mon bien-aimé et mon bien-aimé m'appartient. Alors, en plus que d'être des jeux de mots sympathiques avec les initiales des lettres, on aurait pu inventer d'autres initiales d'ailleurs, d'autres lettres, d'autres mots avec les mêmes initiales, mais on a choisi, les sages ont choisi précisément Ani le Dodi. C'est-à-dire que le thème ici est l'appartenance. J'appartiens à quelqu'un. J'appartiens à une identité divine qui s'appelle ici mon bien-aimé. Et mon bien-aimé m'a créé. Donc il y a une appartenance car il a intérêt à ce que je sois là. La preuve c'est que je suis là. Donc il y a quelque chose dans ce jeu de mots qui dépasse le jeu de mots. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Créateur et ses créatures. Et ça c'est la prise de conscience du mois de Elul. Le mois de Elul, je prends conscience que je suis créé, un être créé par le Créateur. Pas par quelque chose, mais par quelqu'un. Par une identité divine. Pas par « ma » en hébreu, mais par « mi ». J'ai affaire avec quelqu'un. Quelqu'un qui me dépasse infiniment, mais quelqu'un. C'est-à-dire une identité à laquelle je peux parler, avec qui je peux converser. Avec qui j'ai un échange, à qui j'appartiens et qui me donne. Je suis son adresse. Ce lien est très très important pour commencer à comprendre la notion de Teshuvah de laquelle nous allons essayer de tirer quelques renseignements, quelques informations qui vont nous aider pour notre vie. La Teshuvah, c'est quelque chose d'énorme. Malheureusement, on a réduit le sujet de la Teshuvah à « j'ai fauté, je fais Teshuvah et je reviens ». Ça veut dire que le jour où je suis revenu de ma faute, je m'arrête de faire Teshuvah. Vous comprenez que c'est infantile, que ça réduit la notion de la Teshuvah à une notion très très simple et trop simple. La Teshuvah est beaucoup plus simple, mais beaucoup plus complexe, parce qu'elle fait partie de la vie. En effet, lorsque le Créateur a créé ce monde, c'est comme si ce monde était sorti de lui. Comme s'il avait accouché ce monde. Comme une maman qui enfante un enfant. Et donc le terme bara, en hébreu, donc créer, ne veut pas dire créer tout simplement, mais bar. Bar veut dire faire sortir en dehors. En arabe, barra. Barra, faire sortir en dehors de moi. Donc Dieu, l'infini béni soit-il, a fait sortir ce monde de lui. À partir du moment où ce monde sort de lui, exactement comme le bébé qui sort de la maman, tant que le bébé est à l'intérieur du ventre de la maman nourrit le bébé par un lien naturel, par un cordon, et donc toute la nourriture arrive au bébé, il n'a pas besoin d'autre chose parce qu'il est dépendant. Mais c'est comme nous, à l'intérieur, entre guillemets, du divin. Tout ce monde à l'intérieur du divin. C'est comme si nous étions dans un grand ventre infini. Mais le jour de la création, eh bien le bébé sort, donc la création du monde est sortie, et ce bébé est en train de mourir. à condition que sa mère revienne pour lui redonner la vie. C'est la seule solution pour qu'il continue à vivre, sinon il est mort. On le déconnecte complètement de sa mère, donc il n'a plus aucun moyen de vivre de par lui-même, et c'est la miséricorde, la bonté de sa mère qui vient lui redonner la vie par le sein, par le lait, et par tout ce que la mère va venir vers cet enfant pour le nourrir, pour le faire vivre. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. L'exemple, on est obligé de donner des exemples, mais l'infini béni soit-il nous a engendrés, et s'il n'était pas revenu après, tout de suite, comme la mère, pour nous nourrir, pour nous faire vivre à chaque instant, eh bien, on serait déconnecté comme un enfant, chas v'shalom, qui est coupé de sa mère et qui sèche. Donc, moralité, dès l'accouchement, Dieu revient vers nous et nous donne vie. Ce retour de Dieu vers nous s'appelle la Teshuvah. Vous voyez, ce n'est plus nous qui revenons. J'ai commencé déjà par vous mettre une nouvelle notion qui s'appelle la Teshuvah divine. C'est Dieu qui revient. C'est-à-dire que la Teshuvah ici est passée d'un niveau de faute, péché, punition, Teshuvah, à une autre notion. À la véritable traduction du mot Teshuvah, qui veut dire en hébreu retour ou réponse. Toutes les formes de retour, toutes les formes de réponse s'appellent Teshuvah. Car si je traduis le terme Teshuvah, j'obtiens quelques traductions. L'une d'entre elles, réponse. L'autre, revenir à. Donc c'est Dieu qui revient vers nous pour continuer à nous donner la vie. Très important. Donc Dieu fait tchouva. Il n'y a pas encore de notion de faute. Et d'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Psachim, à la page 54, nous dit que la tchouva a précédé au monde. C'est-à-dire que la notion de tchouva existe déjà. Et si c'était seulement faute et tchouva, on ne comprend pas, puisqu'avant la création du monde, il n'y a pas encore de faute. Donc, qu'est-ce que les sages viennent nous enseigner en nous disant que la Teshuvah existait avant la création? C'est que tout simplement, c'est la base même, c'est le but même de toute la création. Ici, le terme « avant » ne veut pas dire une notion de temps, avant et après, mais cause et résultat. Ça veut dire que la cause de toute la création, le but de toute la création était déjà existant. Il s'appelle Teshuvah. Tout ce monde a été créé pour la Teshuvah, pour le retour, dans toutes les sens. Il y a différents retours. Il y a retour de Dieu vers le monde qu'il vient de créer, comme je viens de l'expliquer. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons aussi différents retours. Trois formes de retour principaux, pour ne pas s'éparpiller. Le retour vers l'espace, car nous sommes dans un monde d'espace. Le retour vers le temps, car nous sommes dans un monde de temps. Et le retour de l'être vivant. J'explique, dans ce monde, nous avons trois possibilités d'évoluer, d'avancer. Il y a ce qu'on appelle l'espace, le temps et l'homme. Le retour de l'espace, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout simplement que le peuple d'Israël revient sur sa terre. C'est son espace vital, c'est là où il redevient naturel, et donc il doit faire ce retour. Ce que vous avez fait en venant en Israël, c'est une teshuvah. Je ne parle pas pour l'instant de religion. Je ne parle pas pour l'instant de quoi que ce soit. Je parle tout simplement de naturel. Vous êtes revenu sur votre terre. Vous avez déjà accompli, vous êtes déjà en train d'accomplir un acte de teshuvah au niveau du territoire. Vous avez quitté un territoire étranger à votre nature pour rejoindre le territoire de votre nature, c'est-à-dire Jérusalem, cette terre d'Israël. Deuxième retour, le retour du temps. C'est-à-dire que vous allez découvrir les temps d'Israël. Dans moins d'un mois, dans 2 semaines et demie, nous avons un temps, Rosh Hashanah. C'est un temps vers lequel nous devons aller. Car ce temps-là nous fait nous souvenir de tous les temps d'Israël. Quand je dis les temps d'Israël, je veux dire Rosh Hashanah, je veux dire Yom HaKippurim, je veux dire Sukkot, je veux dire Shmini Atzeret, je veux dire Shabbat. Ce sont des temps d'Israël. C'est-à-dire que vivre selon le temps d'Israël, c'est revenir au niveau du temps. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire du Shabbat un dimanche, ni un vendredi, mais vous allez faire du Shabbat un Shabbat, tel qu'il est dans sa nature. Correspondante, cette nature, à votre être Israël. Et le troisième retour, le retour de l'homme. Le retour de l'homme vers quoi? Eh bien, vers son identité. À force d'étudier la Torah que vous êtes en train d'étudier ici, Be'ezrat Hashem, tout doucement, vous reconnectez votre être à ce que vous êtes véritablement dedans. C'est-à-dire que vous étudiez votre essence. Vous étudiez. Nous sommes en train d'étudier le peuple d'Israël. Que représente cette âme d'Israël et toute l'étude de la Torah qui correspond à cette âme? Est-ce que jusque-là, les choses sont claires? À partir de ce moment-là, nous allons rentrer dans le texte pour essayer de voir comment le Rav Kook, Zatzal, va diriger la notion de la tshuva dans les différents degrés qui vont s'offrir devant nous. Donc c'est un texte que j'ai écrit avec l'aide de Dieu pour essayer de rassembler, pour vous faciliter l'explication, la compréhension de cette notion de Teshuvah. Alors, Arba Bechinot, il y a 4 degrés, 4 formes, 4 niveaux, Veklalutan, et un cinquième niveau qui englobe les 4. Be'oseh Teshuvah, et tout ceci dans le domaine de ceux qui font Teshuvah. C'est-à-dire que dans le domaine de la Teshuvah, nous avons 4 degrés plus un cinquième qui englobe le tout. Be'inyan Teshuvah, en ce qui concerne la Teshuvah, Katav Rav Kook Beremez. Le Rav Kook nous a écrit en allusion. Orot HaKodesh Taf Mem Dalet. Dans son livre qui s'appelle Les Lumières du Saint, à la page 444. Et il nous dit Hal Ashira Meruba, concernant le champ carré. Carré veut dire à 4 côtés. Musag alakuach michelek asot shebatorah, une notion qui a été prise de la partie secrète de la Torah, c'est-à-dire de la Kabbalah. Et je vais tout de suite expliquer. Pour l'instant, nous lisons le texte. On n'a pas compris, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que le Rav nous dit qu'il y a un champ qui a 4 côtés. Un champ à 4 côtés. Un carré. Un champ carré. Qu'est-ce chanter, chanter une chanson. Une chanson carrée. Et en réalité, le Rav nous parle de 4 possibilités de chanter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chanter? Chanter, ce n'est pas commencer à faire des sons. Chanter, c'est exprimer son âme. C'est exprimer la chose la plus intérieure de nous-mêmes et l'extérioriser, la mettre à jour, la sortir de ma bouche par un son. Ça veut dire que lorsque quelqu'un chante, il est arrivé à un degré qui lui permet de faire un mariage entre ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, dans son âme la plus profonde, et l'expression, le verbe le plus concret. Donc ce n'est pas simple de chanter. Si je vous demande de chanter quand vous êtes triste, c'est impossible, parce que vous êtes fermé, vous êtes bloqué. Et quand on commence à chanter, il y a en fait un passage, comme un canal qui s'ouvre, qui vous permet de mieux vivre. Donc le chant vous permet une cohésion entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. Donc c'est une bénédiction de chanter. C'est une bracha de pouvoir chanter. Celui qui chante, c'est un véritable lien, c'est comme s'il mariait tous les mondes jusqu'à l'expression. Donc ça le rend plein de joie, plein de vie, plein de bonheur. Et donc le Rav nous dit qu'il y a 4 niveaux de chant, donc 4 niveaux d'expression. Ha'echad, Pashut, le premier s'appelle le chant simple. Hasheni, Kafoul, le deuxième s'appelle le chant doublé. Ce sont des mots pour l'instant, le Rav nous parle en code, et on va essayer de décoder. Le troisième champ s'appelle Meshulash, triangulaire. Ve'acharon est le quatrième champ, Meruba, le champ donc carré, à quatre côtés. Ukesharam dalet hamadregot. Et il y a un lien qui est en réalité de 4 degrés, les arba'a sugim be'oset teshuva, qui sont 4 degrés de ceux qui font teshuva. Donc nous avons ici, le Rav nous explique qu'il y a 4 degrés dans la teshuva. 4 degrés dans l'expression de la teshuva. Et voici ce que le Rav nous dit dans ce qui est chez vous en gras. Yesh Shehu Shar Shirat Nafsho. Le premier degré, c'est celui qui chante son âme individuelle. Ubenafsho Hu Motse Et Hakol. Dans son âme, il va trouver en réalité tout ce qu'il lui faut. Et Melo Hasipuk Haruchani Bemiluo. Tout ce que l'homme a besoin au niveau spirituel, complet. Ça veut dire qu'il y a une teshuva individuelle où l'homme va faire son travail avec ses ressentis à lui, avec son petit monde à lui, son monde individuel, privé. Et celui qui va faire teshuva à cet étage-là, c'est une forme de teshuva existante. Boletet hagisha ha-individualit el haddat. Qu'est-ce qui va se mettre en relief? Le lien de l'homme individuel à la religion. C'est-à-dire qu'il veut devenir un petit peu plus proche de ce qu'on appelle le judaïsme. Donc il va faire une teshuva individuelle dans son petit monde à lui. Je vais essayer d'améliorer certains actes, certaines pensées. Je vais essayer de me nettoyer. C'est une forme de chant individuel. C'est le premier degré. Zoï Shirat Nafsho, donc c'est le chant de son âme, Hapratit, mais une âme individuelle. Hameafsheret lo lachzor, qui va lui permettre de revenir, Velimtso et Tsipukav Bakodesh. Il va trouver son compte dans une yeshiva, dans un cours de Torah une fois par semaine. Il va se trouver un petit plaisir, et il va combler certains vides. Il a décidé de changer de vie à partir d'aujourd'hui, de commencer à étudier deux fois par semaine, trois fois par semaine, de mettre les tefilines. Des actes qui sont individuels, qui sont à lui, sans rentrer dans des choses compliquées du monde que représente la teshuva, j'ai envie de me rapprocher, tout simplement. Ça existe, vous connaissez cette forme de teshuva? Ça existe. Bien, c'est la première forme. Betzimtzum veshmira kabdanit. Et comment on peut reconnaître ce genre d'hommes qui font teshuva de cette manière-là? Il devient très très méticuleux avec chaque petite chose. Trop très nerveux. Okay? C'est-à-dire qu'il va falloir mettre les tefilines comme ça, et on m'a dit que si je rentrais, qu'il fallait que la mezouza soit aux deux tiers de la porte, donc si elle est un tout petit peu comme ça, je vais la démonter, je vais la remettre. N'est-il à Tiadaim, si j'ai un petit peu pas fait comme il faut que je fasse, je ne peux pas manger. Des choses qui sont là, qui sont réelles, qui sont des mitzvot, et il va rentrer dans le plus petit détail de ces mitzvot-là pour essayer d'être le plus collé, cohérent avec lui-même, avec ce qu'il a envie de devenir. Et donc tout ce qui va venir le déranger dans cette forme de teshuva, il va le fuir. Ça veut dire s'il rencontre quelqu'un qui n'a plus les mêmes pensées que lui, il va dire non, tu m'embêtes, moi je suis dans un processus et tu as d'autres idées qui risquent de me perturber. Ou alors, si je vais dans une telle soirée et que je vois des choses qui ne sont pas correspondantes à ce que je viens de décider, je vais être très très embêté, donc je vais tourner la tête, je ne vais pas rester dans cette soirée, ça va me déranger. Tshuva metoemet le'atzmo, donc cette teshuva va être complètement collée à ce qu'il est à l'intérieur. C'est-à-dire elle va être adaptée à lui-même. Chashuv le'tzayen, mais il est très important de signaler Shira. Regardez bien, le Rav Kook a désigné, a nommé, a surnommé la Teshuva un chant, une chanson, un cantique. Pourquoi le Rav Kook nous dit que la Teshuva est un chant?
Alors ça remet en question le mot de la Teshuva.
Le?
Ça remet en question le mot de la Teshuva.
Non ?
Qu'est-ce que c'est en réalité ?
Ah, d'accord. Ça veut dire que ou ça remet en question le nom Teshuva, ou alors ça nous donne un nouvel éclairage. Comment on peut comprendre véritablement la notion de Teshuva ? Peut-être qu'on ne l'a pas compris, donc le Rav va utiliser d'autres mots pour essayer de nous faire comprendre un petit peu plus. On n'a pas annulé le premier nom, Teshuva c'est toujours Teshuva, mais il dit le Rav ça ressemble un petit peu à un chant. D'accord ? Donc on va traiter le chant et on va comprendre la Teshuva. Klomar, Shenim Shela, le Tochen Venigun. Et pourquoi c'est important de constater cela ? Pourquoi le Rav Kook. Vous comprenez bien que le Rav Kook n'a pas fait ça au hasard. S'il nous dit que la tshuva ressemble à un chant, c'est que le Rav Kook veut nous dire qu'il y a à l'intérieur une mélodie. C'est-à-dire que la tshuva est une mélodie. La tshuva est un rythme. Tout ce qu'il y a dans une chanson, il y a dans la tshuva. Donc je devrais trouver dans la tshuva tout ce que je peux trouver dans un chant. Une belle mélodie, de belles paroles, quelque chose qui me fait remonter... Quelque chose qui me donne de la joie, comme j'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, la véritable tshuva devra obligatoirement me rendre heureux, bien dans ma peau. Et je peux avancer un pas en avant. Si la tshuva me rend malheureux, il y a un problème. Ce n'est plus un chant. Quel ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche plus de lui ?
On est lié par lui.
Mais on est lié malgré ça.
Oui, mais
alors qu'est-ce que tu rajoutes ?
Quand on fait plus de mitzvot, on se rapproche plus de la Torah.
Qu'est-ce que ça veut dire se rapprocher ? Elle est où la Torah pour que tu te rapproches d'elle ?
Elle est
à combien de kilomètres de toi ?
Justement, non, Dieu il est toujours là.
Ah.
On est toujours lié.
Ah.
Mais c'est plutôt le rapprochement en fait.
Qui alors, se rapproche de qui ? Tu es bien sûr.
Teshuva, ça veut dire se rapprocher.
Se rapprocher de qui ?
De Dieu.
Comment tu te rapproches de Dieu ? Tu sais où il est ?
Non, mais on le ressent. C'est un ressenti.
Donc tu es en train de dire l'inverse. Il y a plus de Dieu en moi.
Il y a une partie de Dieu quand même.
Là, oui, mais est-ce que c'est moi qui vais vers lui ou est-ce que je le sens me traverser un peu plus ?
Non, je sens que je vais...
Non.
Deux.
Non. Non. Là, non. On ne peut pas aller nulle part. L'homme, il est dans ce monde. Et quand on dit se rapprocher, effectivement, on utilise le mot se rapprocher de Dieu, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ? C'est Dieu qui nous traverse, un peu plus. C'est-à-dire, je deviens un petit peu plus divin. Je dévoile un peu plus de ce que j'ai à l'intérieur. Car nous avons déjà tout à l'intérieur.
D'accord, mais... C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de ne pas faire tshuva...
Nahon, il bloque tout simplement le divin qui est en lui.
D'accord, donc il décide... de ne pas faire toutes ces actions qui vont faire en sorte qu'il va être plus proche de Dieu.
Que Dieu le traverse.
Donc quelque part, c'est lui qui décide aussi.
Nahon.
Donc c'est lui qui prend le...
Nahon. Mais qu'est-ce qu'il fait l'homme ? Quelle est sa décision ? Où est-ce qu'elle se résume sa décision ? Son choix, il arrête où ?
Son choix...
Est-ce qu'il peut déconnecter de lui le divin ?
Non.
Non. Il peut simplement l'étouffer. On est d'accord ? Donc moralité, qu'est-ce que je fais moi en réalité ? Je suis un interrupteur de laisser passer la lumière divine, on, ou de la bloquer, off. Tout simplement, nous sommes des interrupteurs de Dieu. Quand je fais teshuva, je laisse circuler le circuit divin par moi. J'ai appuyé sur on. Mais quand je décide, chas v'shalom, par de mauvaises actions, ou que je fais une avera, que j'ai fait quelque chose qui est contre le divin, qu'est-ce que je fais en réalité ? C'est pas que je m'éloigne du divin, c'est tout simplement j'ai bloqué, j'ai étouffé le divin qui est en moi et il ne sort pas, il ne s'exprime pas. Mais je ne peux pas me détacher de lui, il est à l'intérieur de moi. Comme vous dites tous les matins, Elohai Neshama Shenatata Bi Tehora. L'âme divine qui est en moi, elle est toujours pure. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, ou elle se dévoile, ou elle reste étouffée à l'intérieur. C'est tout. Je ne peux pas changer et quitter le judaïsme. Je ne peux pas sortir le divin qui est en moi, jeter mon âme. Je peux tout simplement l'étouffer, la scléroser, l'attacher, ou alors lui permettre, la libérer, lui permettre de s'exprimer. plus je libère l'âme divine qui est en moi, plus je deviens moi-même un vecteur, un canal de la lumière divine. Donc c'est toujours du haut vers le bas. Je me fais traverser par un flux divin. Et si je bloque, eh bien, ce qui est en moi ne traverse pas, ne sort pas, c'est bloqué, c'est dommage. J'ai raté en fait une expression. Regardez jusqu'où les choses vont. Est-ce que les choses sont claires? Quand je réalise le divin qui est en moi, okay? En hébreu, réaliser se dit le'asher. Le'asher, c'est réaliser. Donc, quand je réalise le divin qui est en moi, je deviens moi-même les mêmes lettres, me'ushar. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu?
Heureux.
Ça veut dire que, quelle est la condition pour être heureux? Vous avez envie d'être heureux dans votre vie. Tous on a envie d'être heureux dans notre vie. Eh bien, tout simplement, quand tu réalises le divin, en hébreu, kshata me'asher et ta elohut, quand tu révèles, quand tu autorises le divin à sortir de toi, car il ne te force pas, c'est ton choix, eh bien tu deviens heureux parce que c'est les mêmes lettres en hébreu, les asher ve meusha. Donc réaliser et être heureux en hébreu, c'est la même racine. Et si chas ve shalom, la personne étouffe le Dieu qui est en lui, c'est-à-dire la neshama juive, l'appartenance à Israël, en faisant quoi il peut l'étouffer? En refusant. Et moi, ça ne m'intéresse pas, écoute, laisse-moi vivre tranquillement, je suis né juif, c'est une erreur, j'ai rien envie de faire. Eh bien, tout simplement, il est juif. Il va vivre juif, il va mourir juif, avec une âme qui a été étouffée toute la vie. C'est ce qu'on appelle un rachat. Un rachat, c'est un mécréant. Qu'est-ce que c'est un rachat? C'est qu'il ne s'est pas soucié de la vie divine qui était en lui. Il a fait obstruction de tout. Et il a vécu selon ce qu'il a envie, lui. Comme s'il était déconnecté de tout. Il a ignoré l'âme divine, Israël, qui était en lui. Les choses sont claires? Alors, regardez maintenant. Shenimshela le tochen venigun, cette teshuva, donc ce retour, est comparé par le Rav Kook, Zatzal, à un chant, à une mélodie. Hamechabed et haketzev. Et qu'est-ce qu'il y a dans une mélodie? Le respect du rythme. Car quelqu'un qui ne respecte pas le rythme dans une mélodie, il y a un problème. La mélodie n'est pas belle. Elle perd son rythme. Donc elle perd sa vraie valeur. Haketzev ha'arev, donc ce beau rythme agréable, bimiuchad le'oznav shel hashav, et qui est en réalité spécifique, ce rythme-là, à celui qui revient dans le processus de Teshuvah. J'explique. Dans cette forme de teshuva, l'homme revient à un certain rythme qui apparemment lui correspond. Donc il va respecter son rythme comme un chant. Et donc si aujourd'hui il est capable de faire, ça sera le rythme de sa teshuva. Il y a d'autres, ce sera comme ça. C'est un autre rythme. Et tu ne peux pas dire à celui-là, ta teshuva n'est pas bonne. Non, elle correspond à mon rythme. Pourquoi? Parce que c'est une teshuva individuelle, c'est la première, n'oubliez pas. C'est la forme de teshuva que l'homme est capable aujourd'hui de faire avec les données qu'il a aujourd'hui, le degré d'étude qu'il a aujourd'hui, l'ouverture qu'il a créée en lui aujourd'hui. Peut-être que demain ça va changer. Mais il respecte ses rythmes. Omnam, le'achar she'arav ityaches el teshuvat hayachid. Maintenant, nous montons de degré. Après avoir parlé de la teshuva individuelle, donc de l'homme privé, le Rav maintenant va monter un étage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va monter un étage? Donc c'est du bas vers le haut. C'est-à-dire que nous allons voir maintenant une autre forme de teshuva, plus une teshuva individuelle, mais une teshuva qui va monter, on va tout de suite voir, donc dans la partie grasse, écrit en gras, donc là, nous sommes dans une autre plateforme. Le Rav nous dit, deuxième forme de chant, donc deuxième forme de teshuva, n'oubliez pas, la teshuva qui est le chant de la nation. Ah, ça change. Tout à l'heure, c'était un chant individuel. Maintenant, cet homme ne vit plus selon son individualité juive. Il a compris qu'il se passe quelque chose d'autre, beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Il est dans un grand rythme. C'est ce que vous devez ressentir quand vous venez en Israël. Vous sentez que vous n'êtes pas un homme individuel, tout simplement détaché, qui fait sa petite Torah. Vous sentez que vous êtes faisant partie d'un grand corps national, qui a toute une nation autour de vous. Que vous êtes comme un petit membre dans cette grande nation d'Israël. Donc vous entendez un autre chant, une autre mélodie. C'est une autre musique. Yotzehu mitocha ma'agal shel nafsho apratit. Donc c'est comme si l'homme sortait de son petit cercle individuel, de sa petite teshuva individuelle, she'ino motzeota murchevet karaoui, parce que... Alors je vais vous poser la question. Pourquoi? Pourquoi il est monté à un autre degré de teshuva?
Parce qu'il évolue. Parce que c'est quelque chose qu'il ressent.
Parce que c'est quelque chose qu'il ressent. Ça veut dire que son premier étage a été apparemment... Il a fait le tour et il se dit, il y a quelque chose d'autre, ça ne me suffit pas. Je sens que ça ne peut pas s'arrêter là. Je sens que je ne peux pas me lever tous les matins, faire ma petite fila, aller au travail, revenir, c'est fini, c'est ça mon judaïsme. Et regarder de temps en temps la télé, ce qui se passe en Israël. Donc l'homme a un bruit intérieur, il entend une autre musique intérieure qui lui dit, tu n'es pas un homme individuel seulement, tu es une nation. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Torah qui a entendu ces deux musiques, pour l'instant? Celles que nous traitons pour l'instant.
Entendu.
Ressenti, entendu. Peu importe, ce sont les mêmes, ce sont des paraboles. Yafemod. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a grandi en tant qu'homme individuel. Il a grandi, cherché, trouvé, ce que vous voulez. Il est arrivé à un niveau top. Et à un moment donné, Dieu apparaît à lui et lui dit, stop, premier degré, 100. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu passes à un deuxième degré. Lech lecha, me'artzecha, mimoladetecha, mibetavicha, el haaretz asher ar'eka. Quitte ton petit monde individuel. La petite maison où tu es né, quelle? La maison de ton père, ton pays, ta petite terre, ton petit système, ta petite ruelle. El Haaretz, je veux que tu ailles maintenant vers une autre terre. La terre, Haaretz, Asherar Eka, et là-bas je vais te montrer. Ve'esra les Goy Gadol. Là-bas je veux faire de toi plus un grand homme. Tu as déjà réussi à être un grand homme, je veux maintenant que tu deviennes une grande nation, un grand peuple. Vous avez compris, il est traversé déjà? Donc ce bruit-là, cette musique qu'il a entendue, nous on appelle ça l'apparition de Dieu vers Abraham. Mais je veux vous poser une question, est-ce que vous croyez que Dieu est apparu à lui comme un dessin animé? Abraham, comme dans les films que vous avez sûrement vus, Moïse. C'est comme ça que vous imaginez que Dieu apparaît à Abraham?
Maintenant, on imagine comme ça.
Hein? Nahol, vous avez été fabriqué à réfléchir comme ça. Mais en réalité, c'est une voix intérieure qu'Abraham comprend et entend. Je vais vous dire mieux. Ça va peut-être vous faire peur. Vous avez entendu la même voix, c'est pour ça que vous êtes ici. Une voix intérieure, une musique intérieure, quand vous étiez dans les rues de France ou d'ailleurs, vous a dit... J'en ai marre, je ne peux plus rester comme ça. J'ai envie de vivre au sein de mon peuple, grandir, ressentir la nation d'Israël. Je ne peux plus rester comme ça. Eh bien, ce bruit intérieur, ce son intérieur, cette voix intérieure que vous avez entendue, c'est la même que celle qu'Abraham Avinu a entendue. Et d'où je sais ça? Mais tout simplement, c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar nous dit, est-ce que tu crois que l'Ech Lecha, « Va pour toi » a été dit à Abraham? Mais pas du tout, dit le Zohar. L'Ech Lecha est dit chaque instant, à chaque juif, dans toutes les générations. Seulement il y a des gens qui entendent. Abraham a entendu et il est parti. Et vous qui êtes assis ici, vous avez aussi entendu, c'est pour ça que vous êtes venu. Tout celui qui entend cette voix, il est en réalité dans une seule voix. C'est la même qu'Abraham a entendue, car Dieu est invariable. Donc il dit toujours Lech Lecha à tous les juifs du monde, à chaque instant. Seulement, il y a des gens qui entendent et il y a des gens qui n'entendent pas. Pourquoi toi tu as entendu, quelqu'un d'autre n'a pas entendu? Parce que tu as créé en toi un désir, tu as réveillé en toi la capacité à entendre, tu t'es mis des haut-parleurs correspondant à ce son intérieur, donc tu as entendu la musique. Tu as entendu cette prophétie. C'est une prophétie. Donc vous êtes là sans véritablement comprendre pourquoi vous êtes là. Mais un bruit intérieur, un son, un message est passé qui vous a fait changer de vie, comme un switch. Et vous vous retrouvez ici, de temps en temps, quand vous réveillez le matin, vous dites, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis venu faire? Mais ça fait partie du processus. Okay.
Et pour Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil. C'était une voix intérieure qui lui a donné la Torah.
La même chose. Ça veut dire que cette voix est une voix qui n'est pas du dehors. Car si elle était du dehors, ça voudrait dire que Dieu est étranger. Donc la Torah est étrangère à nous. Chas v'shalom. Qu'est-ce que la Gemara dit dans le traité de Nida à la page 30? Que le bébé dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah tout entière. Ça veut dire que quand un bébé naît, la Torah est où? À l'intérieur de lui. Elle est déjà enseignée avant qu'il sorte au monde. Alors à quoi ça sert qu'il étudie? Mais c'est une répétition. Vous êtes en train de répéter, vous faites une chazara de toute la Torah que vous avez déjà vécue, étudiée dans le ventre de votre maman. C'est tout. Ça veut dire que la Torah est à l'intérieur de vous, elle est naturelle à votre identité, elle fait partie de votre être. Et on le dit, quand on monte à la Torah, « Baruch atah Hashem, béni sois-tu l'Éternel, l'Elohim melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata betochenu. » La Torah, elle est à l'intérieur de nous, elle est plantée en nous. Baruch atah Hashem noten haTorah. Merci à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné, qui continue à me donner la Torah. Elle est en moi. Alors, quoi ça sert d'étudier? Eh bien, tout simplement, c'est comme si tu aimantais la Torah qui est déjà en toi. Vous savez comment ça marche un aimant? Si je mets un aimant à l'intérieur de ma chemise et un autre aimant à l'extérieur, eh bien, les deux vont monter, je vais m'amuser. C'est la même chose. Il y a une Torah à l'intérieur de nous. Et il y a des textes qu'on étudie. Eh bien, c'est exactement la même chose. Je fais traverser le texte par quelque chose que je reconnais de mon intériorité. Et je me colle, je me dis, ça me parle. Ça fait partie de mon être. J'ai déjà étudié ça. Ça correspond à un échama. Nader, tu avais une question?
Ouais, non, c'est pas... Mais en fait, Abraham Avinu, c'était le premier homme qui a ressenti.
C'est le premier homme qui a fait. Pas qui a ressenti. Peut-être que d'autres ont ressenti, mais qui n'ont pas passé à l'acte. Lui, la capacité, c'est de faire, de passer, de traverser et d'exprimer.
Mais au début, il ne s'est pas senti un petit peu... Il ne s'est pas posé des questions, il ne s'est pas dit peut-être c'est moi qui commence à devenir fou.
Tout à fait. Tu as raison de poser ce genre de questions pour savoir est-ce que la prophétie que nous avons est une prophétie qui vient de l'éternité, de Dieu, ou alors le fruit de notre imaginaire qui, de temps en temps, peut nous jouer des tours. Tu as raison. Et tout doucement, on apprend à reconnaître les véritables sons de notre Neshama et on arrête de se faire embrouiller par des sons pirates. Tu as raison. Il y a des sons qui piratent. Par exemple, si un jour vous vous réveillez le matin et vous dites « je rentre en France », c'est un son pirate. Faites attention. Car la véritable nature et la mitzvah de Dieu, c'est qu'un juif soit sur sa terre. Quel? C'est pas grave, je recommence.
Au niveau de Moshe Rabbeinu,
oui.
Il est venu dans le buisson ardent pour lui parler.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est venu dans ce buisson ardent? Ça veut dire que Dieu se manifeste dans le monde que je peux appréhender. C'est-à-dire que Dieu va se réaliser dans tout ce que j'ai ici. Par exemple, tu es en train de recevoir un message. Est-ce que je peux considérer que Dieu est descendu dans cette classe pour te donner ce message? Oui, puisqu'on est en train d'étudier ensemble. Quand deux personnes étudient la Torah, Dieu se trouve entre les deux. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un message divin qui descend et il peut s'habiller dans son copain, dans celui qui est en train de lui enseigner, dans sa chavruta. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il va voir les choses qui sont à côté de lui. C'est un berger, donc on va lui montrer ce que représente Israël par tout le monde qu'il connaît, par des chèvres, par des moutons, par des buissons qu'il voit dans le désert. Mais toi, par exemple, tu es un artiste, eh bien, Dieu va t'apparaître dans ton monde à toi, dans ta capacité à reconnaître certaines choses qui font partie de ta vie. C'est clair ? Ça veut dire que c'est un dialogue entre Moshe, l'homme extérieur, avec son être intérieur. Exactement quand tu te poses des questions, toi, qu'est-ce que je fais demain ? Est-ce que je suis sur la bonne route ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Et Moshe est assez ouvert, son canal est assez propre pour savoir qu'en réalité, c'est la véritable divinité qui est en train de parler à travers lui. Comme un prophète. Un prophète, il ouvre sa bouche et il parle. Mais qui parle ? Dieu. À travers la bouche d'un homme. Hein ? C'est bien ? Alors, on continue. Donc, on a dit qu'il est passé de la notion individuelle à la notion de peuple, de nation. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, ah, je me sens un peu coincé. Quoi. C'est une petite Torah du rat des pâquerettes, ça ne me suffit plus. J'en ai marre d'être dans l'individualité. Une petite Torah. J'ai envie de m'élargir. Je sens que c'est plus large que ça. Je sens que c'est plus grand que ça. Okay. Qui pensent comment, comme ça?
Ça veut dire qu'ils font des choses, ça veut dire qu'ils peuvent faire, tu vois, ils font des choses, mais ils s'arrêtent à là.
Ok, alors c'est un degré. Alors on a dit que c'était un des quatre champs. Alors c'est possible que tu restes avec un rythme durant toute ta vie. Ken, ça fait au moins 10 ans que c'est le même rythme dans les chansons. J'attends que ça change. Pour l'instant, c'est toujours les mêmes rythmes. Vous allez dans n'importe quelle soirée, c'est toujours... Apparemment, ça correspond à un certain rythme que les jeunes aiment. Mais un jour, ça va changer. Alors, c'est possible qu'un homme, au niveau de son rythme intérieur, 10 ans, 20 ans, il va rester sur le même rythme. Et un jour, il va se dire, c'est pas possible, il y a quelque chose qui... Il faut que j'avance. Ça pousse de l'intérieur, je veux grandir. Exactement comme un bébé grandit. Pourquoi tu as grandi ? Au début, tu faisais 40 cm.
Il faut évoluer.
Mais d'où tu sais ? Ben c'est à l'intérieur de toi qu'il y a un élément de vie qui te pousse et qui te dit « grandis » sans que tu l'entendes. Et tu l'écoutes et tu grandis. Okay? La Gemara dit « chaque brin d'herbe a un ange, donc une force spirituelle qui lui dit « pousse, 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 grandis, évolue okay? ». Bien entendu, vous n'entendez pas des bruits, sinon il faut vous enfermer. Mais c'est une nature intérieure qui vous pousse à grandir. Vous savez que c'est ça. Tout simplement. Vous êtes sûr, vous êtes dans la réalité, c'est certain, c'est une certitude pour moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Je vous parle avec des codes, mais parce que je veux essayer de vous amener vers un monde plus intérieur, donc plus réel.
Mais donc Dieu, il est vraiment très très proche de nous.
Mais vadaï, Dieu c'est la vie, tu vis de son être.
Oui, mais ça veut dire, des fois on a l'impression que Dieu il est un peu distant.
Pourquoi ? Parce que c'est toi qui es distant. Quand c'est toi qui ferme la porte, effectivement, tu ressens que Dieu ne passe plus.
Non, Dieu, à Kadosh Baruch Hu, il passe, mais ce que je veux dire, c'est que...
Mais il sort pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi une proximité aussi proche. Ça veut dire,
même si
on a un lien tout le temps avec lui, c'est-à-dire, c'est pas tout le temps il passe ou...
Non, il tout le temps, il n'arrête pas. Dieu n'a pas de changement. Si vous attribuez à l'éternité un changement, c'est qu'il est limité. On est d'accord ? Dieu n'est pas limité. Donc ce n'est pas possible qu'il change. Ce n'est pas un jour il est bleu, demain il est vert, et après-demain il te dit quelque chose, et le lendemain il te dit autre chose. Non. Dieu, il est identique à lui-même, et il est invariable. Ani, Hashem, Loshaniti. Moi, je ne peux pas changer, car je ne suis pas soumis au changement. Je ne suis pas dans votre monde. Notre monde, c'est un monde de changement. Mais le monde divin ne change pas. Donc en réalité, Dieu est toujours là, il est toujours présent. Nous vivons de sa vie, de son être, de son éternité. Mais, de temps en temps, comme je m'éloigne de cette force, alors je sens une fermeture, une proximité ou une fermeture, Chas v'Shalom. Et je dois faire en sorte de sentir toujours cette proximité que, en réalité, Dieu qu'elle me fait vivre et que je vis de cette vie, que je réalise cette vie, donc je suis heureux, comme j'ai dit tout à l'heure. Et tu as raison de constater que dans les moments où tu fais quelque chose de pas bon, toi-même, À l'intérieur de toi, il y a un système qui te dit, là, tu as fermé le passage de Dieu. Donc tu te sens un petit peu plus angoissé. J'aurais pas dû mentir, je me sens mal. Mon être me fait mal parce que je ressens que j'ai fermé quelque chose. Et ça doit devenir tellement naturel, ce passage, cette vie, ce lien, que même si tu rentres dans un restaurant où tu as une théouda cachère, et que tu manges, on t'a trompé, que tu manges une viande non cachère, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vomir. Alors que tu as cru que tu as mangé cachère. Et tu ne vas pas comprendre. C'est bizarre, je n'ai pas digéré. Et tu as tout vomi. Et en réalité, si tu vas véritablement vérifier, je vous donne un exemple, hein, ça veut dire que cette viande n'était pas cachère. Donc votre système est tellement devenu pur qu'il ressent ce qui est négatif et étranger à sa nature. Connecté avec le corps, intimement lié, une bénédiction totale. C'est comme ça qu'il faut sentir. Et quand vous mentez, vous devez vous sentir mal dedans. À tel point, ça c'est la véritable teshuva. Ça veut dire que je sens que mon être n'est pas en cohérence avec moi-même, je ne suis pas en cohésion. Donc je suis perturbé parce que j'ai un décalage. Okay? C'est très fin. Donc vous devenez de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, de plus en plus réalisant le divin. Donc comme Dieu est miséricordieux, vous devenez des hommes bons. Comme il est pas dans le mensonge, vous êtes vous aussi que dans la vérité. Comme il est dans la lumière, vous aussi vous devenez des êtres de lumière qui partagent. Comme il est dans le don, ben vous aussi vous commencez à donner, à partager. Comme il n'est pas égoïste, vous arrêtez de l'être. Et ainsi de suite. On commence à ressembler à Dieu car on devient comme lui. Des divins sur terre. C'est ce qu'il veut de nous. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pour qu'on réalise son nom ici. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser son nom ici? On ne va pas commencer à écrire le tétragramme sur les montagnes. Okay? Réaliser son nom ici, ça veut dire que tout ce qu'il représente va passer par nous et on va le réaliser. Quand les gens vont me croiser, ils vont te dire, oh, j'ai envie d'étudier avec lui. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui passe. Il y a du divin qui passe. Eh bien, vous devenez, on doit tous devenir comme ça. Que les gens aient envie, en nous voyant, en se rapprochant de nous, de se dire, ça c'est la Torah qu'il me faut. Je sens que c'est ça. Ça passe par ça. « En Adam Lamed, El Abemakom, Sheli Bo Hafetz » nous disent les sages, un homme ne peut pas étudier la Torah si son cœur ne ressent pas cette étude. Donc il faut que votre cœur ressente cette étude absolument. Pour qu'il y ait une osmose totale entre la Torah qui est déjà en vous, que vous reconnaissez tout simplement. Ça fait longtemps que vous attendez de l'entendre, et un jour elle apparaît. Et tu te dis, ça c'est la Torah que je veux entendre. Tu peux la désigner. Elle devient évidente, claire. Et bien, Zad Hashem, on a juste amorcé la notion de Teshuvah. La prochaine fois, on continuera. Toda Rabba.